France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons à l'Assemblée dès le début du journal pour le tout premier vote sur la réforme des retraites. À suivre également les révélations de deux médias s'agissant des pratiques jugées déconcertantes de Rachida Dati au Parlement européen. L'actualité à l'étranger, c'est tout d'abord la réédition par Donald Trump de son fameux travel ban pour empêcher l'accès au territoire américain de certains ressortissants étrangers. On se rendra par ailleurs en Turquie où la traque des opposants se poursuit inlassablement. Enfin, avec notre invité, on s'interrogera sur les faux-semblants diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, jamais les députés n'avaient été appelés à se prononcer sur la réforme des retraites, plus exactement. Et depuis son adoption, via l'article 49.3 de la Constitution, toutes les tentatives de consultation menées par la suite par différents groupes ont toujours échoué, soit parce que jugées irrecevables, soit victimes de l'obstruction du camp gouvernemental. Une tactique que les communistes ont toutefois réussi à déjouer ce matin grâce à une proposition de résolution à l'occasion de leur niche parlementaire. Alors sur le fond, l'objectif est très clair, abroger purement et simplement les deux mesures phares de ce texte, comprenez la durée de cotisation d'une part et la mesure d'âge d'autre part. En revanche, sur la forme, cette résolution, en rien contraignante, reste essentiellement symbolique. En réalité, tout juste aura-t-elle permis aux députés donc d'exprimer leur avis, mais c'est déjà beaucoup. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté donc ce matin au vote de cette résolution adoptée grâce au soutien de l'ensemble de la gauche et du RN. Je le disais, elle n'a aucune valeur normative. En clair, la réforme reste en vigueur. Mais c'est tout de même un signal fort, Rosalie, voire un avertissement pour le camp présidentiel.
Et il n'est pas très représenté ce camp présidentiel ce matin. Il y a bien un orateur par groupe, mais pas beaucoup plus. Et chacun pousse les arguments habituels. Nicolas Turquois au Modem.
Nos comptes sont dans le rouge.
Stéphanie Rist au groupe Ensemble.
Vous nous dites très bien. On va dans le mur, mais proposons une abrogation symbolique de la réforme des retraites.
Ou Jean-Didier Berger chez les LR.
Vous êtes dans un monde parallèle.
Mais le monde parallèle est bien plus mobilisé ici ce matin et grâce au soutien du Rassemblement National, d'une partie des députés Liotte et de tous les groupes de gauche, les communistes font adopter leur résolution sans faire trembler la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet.
Le débat aura-t-il avancé d'un centimètre? La réponse est clairement non. Les partisans de l'impossible retour en arrière auront simplement pu se compter.
Avec 198 voix pour l'abrogation et 35 contre, une ministre ne devrait pas dire ça, répond le patron des députés communiste Stéphane Peu.
Nous l'invitons à réfléchir. Il serait incroyable et antidémocratique que le gouvernement et le président de la République ne tiennent pas compte de l'opinion des Français, ça on s'en était rendu compte, mais du premier vote de l'Assemblée nationale. Donc nous lui avons suggéré deux hypothèses, abrogation ou référendum, et si aucune des deux n'est empruntée par le gouvernement ou le président de la République, on en tirera les conséquences.
Et c'est le retour de la menace de la censure. Le gouvernement Bayrou a échappé à sa 7e motion hier. La 8e pourrait bien ne pas tarder. Et sur le sujet des retraites, à gauche, on veut croire qu'elle ne pourrait pas ne pas passer.
Merci Rosalie Lafarge en direct de l'Assemblée avec Florent Layani pour les moyens techniques. Alors avec le vote de cette résolution, les communistes vont-ils ranimer la contestation? Une journée de manifestation et de grève est justement organisée aujourd'hui à l'appel de la CGT. Puis ce vote pourrait également jouer un rôle de levier politique avant la fin des travaux du conclave entre partenaires sociaux censés remettre la réforme en chantier. C'était l'une des promesses du gouvernement de François Bayrou à la faveur d'un compromis noué avec les socialistes, lesquels avait accepté en échange de ne pas censurer le gouvernement. Leur enthousiasme avait d'ailleurs assez rapidement été déçu, au point que les députés PS agitent donc désormais à nouveau la menace d'une censure du gouvernement si ce dernier ne soumet pas au Parlement un éventuel accord entre les partenaires sociaux. En attendant, les militants du parti Alain Rose seront appelés aujourd'hui à trancher le duel incertain entre les deux prétendants au poste de premier secrétaire, Olivier Faure d'un côté et Nicolas Maillard-Rossignol de l'autre, avec toutefois un léger avantage pour le candidat sortant. Depuis que Boris Vallaud, le troisième homme, a fait savoir qu'il voterait pour lui à titre personnel, reste encore à savoir si ce vote sera de nature à régler des affrontements interpersonnels difficilement conciliables avec la survie du parti.
Total Energy a-t-il trompé ses clients avec ses promesses climatiques?
C'est aujourd'hui que la multinationale pétro-gazière devra répondre devant un tribunal civil d'accusation de publicité mensongère portée par plusieurs ONG, soit le tout premier procès de greenwashing en France pour un un énergéticien. Au cœur de l'affaire se trouve la campagne de communication du groupe déployée à partir de 2021. Une quarantaine de messages au total sont visés qui ne reflèteraient pas de façon sincère la réalité des activités de l'entreprise, qui à l'époque s'était d'ailleurs rebaptisée Total Énergie pour souligner ses investissements dans les énergies bas carbone. Enfin, rappelons qu'au-delà de cette procédure donc au civil, d'autres associations ont attaqué au pénal, cette fois-ci là encore pour pratiques commerciales trompeuses.
Rachida Dati a-t-elle reçu des honoraires non déclarés lorsqu'elle était eurodéputée?
Selon une enquête conjointe menée par deux médias, l'actuelle ministre de la Culture et par ailleurs candidate à la mairie de Paris aurait perçu 299 000 euros de GDF Suez en 2010-2011. Autant de versements mis en regard de ses prises de position jugées favorables au secteur gazier lorsqu'elle siégeait au Parlement de Strasbourg. De son côté, la principale intéressée, par ailleurs toujours mise en examen depuis 2021 pour corruption et trafic d'influence passive dans l'affaire Carlos Ghosn, récuse ses accusations. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
Pour l'heure, tous ces documents ne sont pas aux mains de la justice, mais ils tendraient donc à prouver que Rachida Dati a été rémunérée par le géant français.
Oui, ces documents révélés par le Nouvel Obs et compléments d'enquête proviennent de la comptabilité d'un cabinet d'avocats parisien avec lequel Rachida Dati a collaboré. On y découvre l'encaissement de deux virements en juillet 2010 et en février 2011 de 149 500 euros chacun provenant de GDF Suez, devenu aujourd'hui Engie. Et dans les deux cas, quelques semaines après, ces mêmes sommes ont été décaissées par le cabinet d'avocats et versées sur le compte de Rachida Dati, des transferts où figure à côté la mention « Dati ». Honoraire GDF Suez. Mais toute la question est désormais de savoir si ces sommes correspondaient à des prestations réelles. La ministre a toujours nié avoir travaillé avec GDF Suez lorsqu'elle était avocate. Et ce que nous apprend cette enquête, c'est qu'en 2010, Rachida Dati était aussi eurodéputée et a déposé plusieurs amendements alignés sur les intérêts de GDF Suez, au point d'alerter le déontologue du Parlement européen de l'époque sur un possible risque de conflit d'intérêts. Et si ces liens se vérifiaient, cette qualification pourrait évoluer en soupçon de corruption, fait pour lesquels, vous l'avez dit Thomas, l'actuel ministre de la Culture est déjà mis en examen, mais conteste ces accusations. Un dernier recours de ses avocats doit être examiné le 27 juin prochain, après quoi la juge d'instruction chargée du dossier pourra décider de renvoyer ou non Rachida Dati devant un tribunal.
Merci Jeanne Serrin. Les deux activistes de Greenpeace soupçonnés d'avoir dérobé la statue de cire d'Emmanuel Macron au musée Grévin pour dénoncer les relations commerciales entre la France et la Russie dans les secteurs du gaz, des engrais chimiques, du nucléaire ont été présentés ce matin à un juge d'instruction qui se prononcera sur leur mise en examen. Les deux militants ont déjà passé plus de 60 heures en garde à vue. Leur avocate dénonce des conditions de détention déplorables et une situation judiciaire, je cite, parfaitement disproportionnée.
Puissante voix des pays du Sud global, le président brésilien Lula est aujourd'hui à Paris.
Une visite d'État au cours de laquelle seront abordées bien entendu des questions bilatérales dans un contexte international toutefois chaotique, qu'il s'agisse de la guerre commerciale initiée par Donald Trump, sans oublier les conflits en Ukraine et à Gaza. S'agissant justement des récits glaçants comme des images dantesques en provenance de la bande de Gaza, rien ne semble pour l'heure convaincre le gouvernement de Benjamin Netanyahu de vouloir mettre fin à ce drame, sans compter qu'hier les États-Unis déterminés à protéger leur allié ont mis leur veto à un projet de résolution des Nations Unies appelant un cessez-le-feu.
Et de la même manière, aucune paix immédiate n'est envisagée entre Kiev et Moscou.
Non, le maître du Kremlin et agresseur en chef l'a redit hier dans sa conversation téléphonique avec son homologue américain Donald Trump. Vladimir Poutine a même prévenu que son armée allait riposter à l'attaque lancée il y a quelques jours par les services de sécurité ukrainiens en Russie. De quoi dissiper les doutes qui auraient pu encore exister autour des faux semblants diplomatiques entre les deux ennemis. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Alexandra Goujon, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris. Bonjour madame.
Bonjour.
Récemment, les deux belligérants ont fini par consentir à s'asseoir à une même table. Pour autant, aucun des deux cycles de négociations n'a permis aux deux camps de s'accorder sur une quelconque trêve. Pourquoi l'Ukraine et la Russie ont-elles accepté de se parler ?
Alors, celui qui a lancé quand même ce nouveau cycle de négociations, c'est Donald Trump. Hein. C'est sous la pression de Donald Trump que ces deux délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrés. Au départ, on a vu Zelensky plutôt réticent. On se souvient de cette rencontre au bureau ovale très tendu. Et en fait, il était réticent parce que Zelensky sait que la Russie ne veut pas la paix, hein, la Russie qui bombarde chaque jour l'Ukraine. Par contre, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait de la bonne volonté côté ukrainien et que, en fait, les Ukrainiens souhaitaient avant tout la paix. Et côté russe, c'est la même chose, c'est-à-dire ne pas se mettre Donald Trump à dos et montrer qu'il y a une bonne volonté. Voilà, à mon sens, pourquoi les deux délégations se sont rencontrées.
Ça veut dire que si l'Ukraine et la Russie se sont certes formellement prêtées donc au jeu de ces négociations, aucun des deux camps n'avait en réalité intérêt à ce qu'elles aboutissent.
Alors, la question de l'intérêt est totalement différente. L'Ukraine souhaite l'arrêt des combats depuis le début. La question est de savoir à quel prix. Et le prix à payer aujourd'hui, mis sur la table par la Russie, ressemble à une capitulation. Donc on en est, si je puis dire, à peu près au même point qu'en 2022. Hein, c'est-à-dire que la Russie souhaite absolument soumettre l'Ukraine, hein, et l'Ukraine résiste à cette soumission. Donc en fait, ce dialogue est un dialogue de sourds, hein, puisque on a une équation en fait qui s'est faiblement modifiée. Et côté russe, la soumission passe bien évidemment par une mise à genoux et notamment des bombardements réguliers pour essayer d'arriver à faire en sorte que l'Ukraine, en quelque sorte, capitule, lâche l'affaire, se désintègre.
Dans ce dialogue de sourds, le leitmotiv du Kremlin reste toujours le même. En clair, l'Ukraine serait elle-même en partie responsable de ce conflit. Jusqu'à quel point la Russie parvient-elle à imposer cette idée ?
Oui, ça c'est l'objectif. C'est-à-dire un des objectifs de la Russie, en dehors de soumettre l'Ukraine, c'est de montrer en fait que c'est l'Ukraine qui veut la guerre et d'inverser la responsabilité de la guerre. C'est pour ça que dans votre propos liminaire, vous avez parlé d'agresseur et il est important de rappeler que c'est bien la Russie qui agresse l'Ukraine. Et on le voit ici d'ailleurs lorsque Poutine intervient hier pour dire qu'en fait, c'est l'Ukraine qui est terroriste parce que elle a ciblé des bombardiers russes, ces mêmes bombardiers en fait qui bombardent l'Ukraine. Ce sont des cibles militaires. Et donc, bien évidemment, l'idée c'est d'inverser cette responsabilité. Et je pense qu'il est important de rappeler que la guerre a été voulue par la Russie et que la Russie souhaite continuer cette guerre. Et ça veut dire que est-ce que Trump continue de croire à cela ?
Est-ce que cela veut dire que compte tenu des blocages que vous décrivez qui empêchent la voie diplomatique d'aboutir, les seules évolutions significatives dans le déroulement de ce conflit se trouvent toujours et encore malheureusement du côté des opérations militaires ?
Oui, je pense qu'en fait, ce sont les opérations militaires qui priment. Et d'ailleurs, c'est bien sur ce terrain-là qu'il faut être extrêmement attentif. Deux éléments sont importants. L'aide militaire à l'Ukraine qui lui permet de résister sur le terrain puisque la Russie continue de grignoter. Hein, je rappellerai que de 19% du territoire ukrainien est aujourd'hui occupé par la Russie. Et la question des sanctions, hein, parce que en fait, ce qui permet aussi à la Russie de s'armer et de prolonger son combat, et aujourd'hui hein, l'armement passe notamment par la production de drones, c'est parce que elle peut encore enfin avoir une économie et des sanctions qui ne font pas faiblir suffisamment son
économie de guerre.
C'est sur ces deux volets que les Ukrainiens militent.
Merci beaucoup Alexandra Goujon, donc maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Énième décision spectaculaire signée Donald Trump.
Oui, les jours se font même plutôt rares depuis son investiture. Hier, nouvelle illustration du nationalisme autoritaire de l'administration républicaine. Le président a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays de terroristes étrangers. L'interdiction effective à partir de lundi prochain s'appliquera à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen et Plus étonnamment, la République du Congo-Brazzaville, le pays ne coche pourtant a priori aucune des cases justifiant cette interdiction, au point que certains se demandent si le président américain n'aurait pas confondu avec la République démocratique du Congo. Seule certitude, Isabelle Labéry, ce travel ban rappelle évidemment le premier mandat de Donald Trump.
Oui, avec une petite différence de forme, car cette fois, il y a plusieurs jours entre l'annonce et sa mise en œuvre, de quoi faire circuler l'information et normalement éviter les innombrables scènes de pagaille vécues en 2017 lors de la première interdiction formulée sans préavis à l'encontre de sept pays à majorité musulmane. Mais si Donald Trump récidive, c'est parce qu'il juge ces restrictions efficaces. C'est grâce à elles, dit-il, qu'il y a 8 ans, les États-Unis ont été épargnés par les attaques qui s'étaient alors produites en Europe. Pas de standardisation, chaque pays est visé par des mesures différentes, selon l'efficacité de son administration et de ses contrôles. Dans le viseur de Washington, ceux qui affichent des taux élevés de ressortissants dont le visa a expiré mais qui restent sur le sol américain, ceux qui ne partagent pas suffisamment leurs informations sur la dangerosité potentielle de certains individus ou ceux comme l'Iran qui sont accusés de soutenir le terrorisme. Certains individus, malgré tout, ne sont pas concernés par les restrictions, par exemple les sportifs qui participeront à la Coupe du Monde l'an prochain ou aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Autre exemption, ceux dont le déplacement servira l'intérêt national, principe qui restera à établir au cas par cas. Plusieurs centaines de milliers de personnes en tout cas restent concernées par cette interdiction.
La chasse aux sorcières se poursuit en Turquie.
Oui, depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, ce sont désormais 11 édiles issus du Parti Républicain du Peuple qui se retrouvent désormais derrière les barreaux et l'étau se resserre encore puisqu'hier, le parquet d'Istanbul a ouvert une enquête contre le chef du principal parti de l'opposition pour insulte à la justice. Les précisions de notre correspondante Marie-Pierre Véraud.
Il faut dire qu'il durcit ses propos, Özgür Özel, alors que la répression visant le CHP, le Parti Républicain du Peuple, se durcit, elle aussi. Ce sont les propos tenus à l'encontre du procureur d'Istanbul, Hakan Gürlek, lors d'un des rassemblements hebdomadaires que le CHP continue à organiser dans la mégapole, qui valent ses poursuites contre Özel. C'était dans le quartier de Gazi Osman Pasha hier soir. Hakan, lance-t-il à une foule surchauffée, tu es tombé sur un os, mon fils, et de menacer l'AKP du président, notre patience est à bout, nous occuperons les places et ne nous disperserons plus. Le procureur d'Istanbul apparaît plus que jamais comme le bras armé de la vengeance politique d'Erdogan, qui n'a pas supporté de perdre les municipales de 2024. Il s'emploie depuis à rogner les pouvoirs des villes et arrête à tour de bras élus et dirigeants de sociétés liés à la municipalité d'Istanbul. Les dernières images des maires arrêtés ce week-end lors d'un cinquième coup de filet, ici mais également en province, ont déclenché ce nouvel accès de colère de l'opposition. La télévision d'État les a en effet filmés, encadrés par 2 rangs de policiers comme des malfrats, ravivant le souvenir des images du coup d'État de 1980. Une police et une justice manipulées par le pouvoir contre le peuple, tonne le CHP. Özel se sait dans le viseur. Le gouvernement a également entrepris de contester son élection à la tête du parti et monte un dossier pour achat de voix. Le CHP, premier parti du pays, redoute d'être décapité.
Autrefois un véritable Eldorado, les océans vont-ils bientôt se transformer en simple sanctuaire alors qu'ils absorbent encore aujourd'hui une bonne partie du CO2 émis par les activités humaines tout en régulant la température et le climat de la planète Terre? Les milieux marins apparaissent aujourd'hui plus que jamais menacés et c'est ce que devrait encore répéter la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à partir de lundi prochain à Nice où vous vous trouvez. Cécile de Carvaz-Doué, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Dès ce matin, Cécile, de premières recommandations d'ailleurs ont été formulées.
Oui, ces 10 recommandations sont un appel à l'action immédiate, ont assuré les représentants de la communauté scientifique internationale présents ici à Nice. Alors, dans des domaines où la science est claire, disent-ils. Par exemple, parvenir à sanctuariser 30% d'aires marines protégées, c'est-à-dire où l'exploitation des ressources océaniques serait interdite. Alors qu'aujourd'hui, malgré les engagements internationaux, il y en a un peu moins de 10% mis en place sur l'océan. Autre recommandation, lutter contre la pollution plastique en réduisant massivement la production et donc notre consommation de plastique, mais sans penser à pouvoir retirer le plastique présent aujourd'hui en mer, parce que, nous dit-on, cela réduirait le phytoplancton qui est à la base de toute la chaîne alimentaire. Là où la science est claire encore, c'est sur la nécessité urgente d'imposer une pêche durable, c'est-à-dire non industrielle, respectueuse des espèces. De même, sur la nécessité de décarboner le transport maritime, responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et puis, il y a d'autres domaines, nous disent les scientifiques, où la science est moins claire et où les scientifiques appellent à la précaution. C'est le cas sur le stockage du carbone dans l'océan, où la science n'est pas sûre de l'efficacité et surtout des conséquences de ce processus. De même, les scientifiques appellent à l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, car on ne connaît aujourd'hui que 0,01% de ce milieu. Et pour cela, disent-ils, ils appellent unanimement et en priorité les dirigeants à adopter le traité international de la haute mer. Un appel lancé par le directeur de l'Ifremer, représentant de ce congrès, François Houllier.
La ratification de ce traité, c'est quelque chose qui est en même temps très important, parce que le jour où il est ratifié, alors derrière, il y aura une mécanique qui se mettra en place avec des conventions, des parties, des COP sur l'océan. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est loin de la science, mais en tout cas, tous les scientifiques pensent que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Il faut 60 pays pour qu'il soit ratifié. Il y en a plus, alors je suis au moins 21 qui l'avaient ratifié il y a quelques jours, donc on doit être moins d'une trentaine aujourd'hui. Je crois que le gouvernement français et le gouvernement du Costa Rica ont bon espoir que la ratification intervienne avant la fin de l'année. Mais ça, c'est quelque chose d'important pour que notre voix aussi soit reconnue dans la durée, qu'on puisse revenir à l'occasion des prochaines COP sur ces sujets-là.
Et la balle est dans le camp des dirigeants qui se réunissent la semaine prochaine à l'UNOC.
Merci Cécile de Kermasdeau en direct de Nice, ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Calme sur un bon tiers sud du pays, maussade partout ailleurs. Les températures, elles seront comprises entre 15 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Merci.